Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Nous allons encore marcher, on fait encore un petit bout de chemin, parce que le fameux prêtre qui nous a dit « Allez à Puebla », il nous a parlé d'une chapelle, la chapelle des Roses. Il nous a dit « C'est extraordinaire, il faut vous rendre à la chapelle des Roses ». Alors, cette chapelle est dans l'église des Dominicains. Alors, avant d'y entrer, on prend le temps de regarder l'extérieur, et là, il y a un groupe, de touristes, et ce sont des Français. Alors, on prend le temps d'écouter ce que la personne est en train de leur raconter, de l'histoire de leur pays. Et le guide touristique emploie le mot « indigène » pour parler des gens du Mexique, en disant « nous sommes des indigènes, parce que c'est notre terre. Alors, les missionnaires sont arrivés chez nous. » Bon, les Dominicains, dans ce cas-ci. Alors, il emploie le mot « indigène ». Et il va oser dire au groupe qui se trouve devant lui, « Vous aussi, vous êtes des indigènes. Mais vous êtes des indigènes en France. » Et là, il y a une femme qui riposte et qui dit « Non, nous ne sommes pas des indigènes. » Alors, je ne vous raconte pas la suite. Nous entrons dans la chapelle, elle est magnifique. C'est une chapelle tout en or, sculptée, une merveille. On dit qu'il fallut 40 ans pour la construire. Influence espagnole, évidemment. C'est très très chargé, mais c'est très beau. Il faut vraiment s'asseoir là. Il faut prendre le temps de s'asseoir pour admirer. Encore le regard. Je pense que toute cette journée-là aura été sous le signe du regard. Les yeux, contempler, voir. Et ce que l'on voit correspond à ce qui est en nous aussi, ce qui est déjà en nous. Il y a une correspondance entre ce qu'on voit et notre histoire personnelle. Moi, si je vois une rose, par exemple, je peux me promener dans mon histoire un peu partout. Mais si je vois une rose en plastique, j'ai un souvenir magnifique dans ma vie qui me ramène à mes parents, qui me ramène à ma mère et à mon père. Je devais avoir à peu près, moi j'étais pas vieux, hein, je devais avoir à peu près 4 ans. Et bon, j'avais entendu dire que c'était la fête des mères qui s'en venait. Et là, je voulais offrir des fleurs à maman et des roses. Est-ce que j'avais déjà vu des roses? Peut-être, mais des roses en plastique? Probablement, j'ai dû voir cela. Alors, j'en parle à mon père. Je dis à papa, mon désir d'offrir des roses pour la fête des mères à ma mère. Je vous le dis, j'ai autour de 4 ans. Alors, papa va en parler à ma mère. Et, dans leur secret, maman va acheter les roses en plastique. Elle-même, elle va les donner à mon père, qui, lui, va me les remettre. Mais je sais qu'il les a, parce qu'il me le dit. Il m'a dit, j'ai les roses. Alors moi, je voudrais les donner tout de suite. Et mon papa, mon père, me dit, c'est pas le temps. Il faut encore attendre, c'est dimanche. Alors, moi, dans ma tête, je compte les dodos. Faut compter les dodos. Alors, ça me prend beaucoup de patience, vous savez. Et je sais où elles sont, les roses. Elles sont cachées dans un garde-robe de la chambre de mes parents. Mon père me les a montrées. Alors, je vais voir, tous les jours, je vais voir les roses. Et mon désir grandit. Mon désir devient encore plus beau. Et j'attends, comme cela, avec bonheur, qu'arrive le jour, le dimanche, où ce sera la fête des mères. Et j'offrirai à maman les roses qu'elle a achetées elle-même, les roses en plastique, des belles roses en plastique. Et c'est le bonheur total. Ça, c'est un magnifique souvenir dans ma vie. Un magnifique souvenir dans ma vie. Et un jour, adulte, j'ai repris ce souvenir pour mon père. Mon père attendait quelque chose de très, très important. Et ça ne venait pas. Il m'en parlait. Bon, je l'écoutais. J'écoutais mon père. Et voilà que ce souvenir est remonté à mon cœur. Alors je lui ai écrit. J'ai écrit à papa. Et je lui ai rappelé ce souvenir. Et je lui ai raconté combien de fois j'allais voir les roses. Mais ce n'était pas le temps. Il fallait que j'attende le dimanche de la fête des mères pour les offrir. Alors je lui ai raconté cette histoire qu'il connaissait. En tout cas, il s'en est certainement rappelé puisqu'il l'était. Il était complice avec moi. Il ne m'en a jamais parlé par la suite. Mais je suis convaincu que cette petite histoire d'enfant que je lui ai racontée et qui le concernait, l'a sûrement aidé à attendre encore un peu ce qu'il espérait. Et je me dis, quand il a lu la lettre, il a dû pleurer. Voilà, ce qu'on voit fait partie déjà, parfois, de notre histoire. Et ces sculptures, tout cela, a une résonance en nous par les souvenirs que nous portons. On n'est pas toujours conscient de cela. Donc, magnifique chapelle du rosaire. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Les gens avaient suivi le cortège jusqu'au cimetière. Toute la famille y était aussi, mais Petit-Jean ne s'y était pas rendu. Au déplaisir des uns et des autres, sauf de son père qui se doutait pour qui il s'était absenté. À son retour de la maison, Petit-Jean avait trouvé, assise près de la table, la dame de la montagne. Ses cheveux tombaient sur ses épaules. Il se mit à la peigner et à relever ses cheveux comme elle avait l'habitude de le faire dans le passé. Elle le laissait faire. Puis il lui dit « J'ai pris ma place ». Elle sourit. Puis, tout en poursuivant ses manœuvres de coiffeur improvisé, il la ramena finement au récit commencé le matin. « Qui t'a retrouvé dans la forêt ?» D'abord étonnée, elle répondit. « Quelqu'un, une dame. »« Quelle dame ?»«
La dame de la montagne. »«
Mais c'est toi, la dame de la montagne ?» dit-il en souriant.
« Je le suis devenu, » fit-elle.
Une fois de plus, l'imagination de Petit-Jean se mit à trotter, à inventer tous les scénarios possibles. Puis, rompant ses éclairs d'imagination chez son apprenti coiffeur, elle dit
« Qui penses-tu m'a montré le chemin de l'autre guerre, cette guerre qui dure toujours. »
Il ne répondit rien. Elle reprit.
« Moi aussi, Jean, j'ai appris durement à monter les 7 marches. »«
Les 7 marches ? » fit-il étonné. Et pensant deviner ce qui viendrait, il osa demander. « Mais alors, si cette guerre dure toujours, y aurait-il une 8e marche ?» À ces mots, elle blêmit et se remit à trembloter. Péniblement, elle se leva et s'enfonça dans sa chambre obscure. Visiblement fatiguée, on eût dit qu'elle avait peur d'avoir encore trop parlé. Petit-Jean l'avait suivi longuement du regard, impuissant, dépassé. Elle s'était mise à redire les paroles mystérieuses.
« Morte l'étoile, morte l'étoile. »
Songeur, Petit-Jean se mit à dire à son tour les paroles qu'il connaissait maintenant par cœur, mais sans pouvoir les comprendre. « Nuit noire. » Morte l'étoile, long horizon bleu, horizon rouge, fil d'or se dessine, du trésor, rapide, l'astre sort. Le voilà donc avec cette énigme. Puis soudain il se dit, pourquoi donc ne dit-elle plus nuit noire ? La lune s'était mise en grand apparat. Ce soir-là, elle avait une telle luminosité qu'on eût dit qu'elle allait parler. Petit-Jean l'avait droit devant lui, sur le chemin qui le menait au cimetière où l'on avait mis en terre sa mère. Étrangement, il aimait ce lieu. N'était-il pas allé souvent penser près du vieux Pépé Antoine, qui y reposait aussi? Là, dans ce lieu, il se retrouvait au cœur des êtres et des choses. Rien n'éclipsait ses pensées, pas même tous ces visages qui voulaient le rendre coupable de quelque chose et qu'il avait reçu avec tant de dureté. « Ces gens transmettent leur propre obscurité, » pensait-il. « Ils essaient de troubler en nous ce qui, justement, est à la source de ce qui nous fait agir. » Il pensait encore. « La culpabilité vient de leurs yeux, mais ces yeux sont des voix. » Des cris, des paroles qui nous poursuivent. C'est la certitude, l'amour de maman, qui les renvoie tous à leur place. Petit-Jean venait de toucher de nouvelles profondeurs à son être. Il venait de comprendre que parfois, les gens risquent de nous enterrer vivants et de nous jeter dans des fosses creusées à même leur impuissance. Où étaient-ils donc, ces gens ? « Lorsque ma mère rendit son dernier souffle, » se dit-il. « Ils étaient tous chez eux, » se répondit-il. Désormais, sa mère s'enracinait en lui. Il la verrait par le cœur. C'est de là que sa voix parlerait. Longuement, il regarda cet endroit où on l'avait mise en terre, une terre nue. Tout autour régnait la nuit sous la lune, une nuit de silence. Près de la fosse, il se mit à genoux. Il pleurait. Là-haut, les étoiles se taisaient, entourées d'éternité. Puis, à voix haute, il dit « Maman, c'est moi, ta certitude. Dors bien. » Et mettant sa main sur sa bouche, il fit un signe de tendresse. « Je t'embrasse. » Puis, se levant, il quitta cette oasis de paix, là où le jugement ne vient plus des autres, mais du cœur de la terre, cette terre souvent meilleure que ceux qui la piétinent. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.